Voilà, bonsoir mes frères et sœurs. Que Dieu soit béni pour ces moments où nous pouvons laisser, comme on vient de le chanter, la lumière du Seigneur éclairer nos cœurs, car nous en avons besoin. Nous allons faire une lecture qui parle de l'idolâtrie. Dans les Ésaïe 44, nous allons lire à partir du verset 9. Ils sont nombreux les textes comme celui-ci, pour nous mettre en garde sur tout ce qui est idolâtrie, prostitution spirituelle. Car il faut également comprendre qu'il n'y a pas que la prostitution sexuelle, il y a la prostitution aussi spirituelle. Ésaïe 44, verset 9. Voilà, je vous encourage à prendre les textes. Alors, si nous n'avons pas le temps de finir, l'autre fois, ma femme m'a dit, Gérard, tu as prêché presque 2 heures. Alors, ce soir, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, je vais prêcher 1 heure. Et on poursuivra. Mais ce qui manquera, je vous le donnerai sous forme de dossier. C'est-à-dire, pour expliquer, par exemple, ce que sont les tireuses de cartes, comment elles procèdent, etc. Ou les médiums, ou les guérisseurs, ou certains sorciers. Si je n'ai pas le temps de finir ce soir, je finirai de toute façon sous la forme d'un dossier, car ça sera certainement plus utile. Ésaïe 44, verset 9. S'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez les noter sur un bout de papier et vous les donnerez à Nicolas à la sortie. Voilà, à moins qu'on ait le temps tout à l'heure d'y répondre. Mais comme certaines personnes n'osent pas les poser publiquement, vous pouvez les poser anonymement. Ésaïe 44, verset 9. « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. » Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Puis il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu !» Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur des charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare. » Regardez la conclusion. « Il ne sauvera pas son âme et ne dira point « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main ?» Au verset 19, alors on ne va pas faire une étude sur l'idolâtrie puisqu'on est dans l'occultisme, mais ça résume bien l'aveuglement. Le verset 19, alors il y a plein de points que ça vaudrait la peine d'expliquer par rapport à un sujet ou à un autre. Mais regardez les conséquences de l'idolâtrie, de l'occultisme. Regardez bien, verset 19, « Il ne rentre pas en lui-même. » Le problème des sciences occultes, c'est que ça vous empêche de rentrer en vous-même et de laisser le Saint-Esprit vous éclairer. C'est un danger archi grave. C'est pour ça que l'ennemi utilise de tous ses stratagèmes pour empêcher les gens d'être sauvés. Vous avez vu la conséquence, verset 20, « Il ne sauvera pas son âme. » Donc c'est une abomination. Dans le psaume 106, Alors je vous donne des textes, bien sûr que vous pouvez prendre avec une Bible à parallèle tous les textes qui parlent de l'idolâtrie et qui vous amènent dans ces abominations. Dans le psaume 106, au verset 35, on voit lorsque les hommes commencent à s'éloigner de Dieu, ils sont obligés de remplacer la foi ou la piété par quelque chose d'autre. Dans le temple de Jérusalem, quand ils ont enlevé la prière, ils ont remplacé par des idoles. C'est comme ça, on ne supporte pas le vide. Et si on n'a pas une vraie foi en Dieu, on est obligé de chercher ailleurs. C'est pour ça que les gens cherchent dans les ténèbres. Psaume 30, 106, verset 35. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs fils aux idoles. Vous voyez, c'est un crescendo. On pourrait prendre tous les textes. On ne va pas le faire parce que ce n'est pas l'objet. Mais on voit un crescendo lorsqu'on se commence à abandonner Dieu, on se tourne vers les idoles. Et des idoles, on en arrive à l'occultisme. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles. Les sacrifices, vous voyez, à Satan. Vous voyez où ça va? Ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Le pays fut profané par les meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leur action, le verset 40 n'est pas étonnant, la colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Cette expression, elle revient souvent. Il y a des choses que Dieu ne supporte pas. Et la colère de Dieu qui va venir sur la terre sera le résultat de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on a abandonné Dieu. On n'a pas abandonné les églises. Les gens, ils vont à l'église, mais ils ont abandonné Dieu. Les gens, ils s'imaginent que parce qu'ils vont à l'église, ils sont chrétiens. On est chrétien lorsqu'on obéit à Jésus-Christ. Alors, vous voyez, il est parlé d'abomination, il est parlé de prostitution spirituelle, et la prostitution, pour nous, c'est moral. Mais regardez, quand Jésus dit, il faut le voir ces choses, dans Matthieu chapitre 18, ce sont des textes qu'il faut comprendre. Jésus, à un moment donné, il a traité les apôtres de pervers. Vous le savez ça? Vous l'avez vu? Vous l'avez remarqué? Non, vous pouvez me répondre quand je pose une question. Vous allez voir si vous me posez une question à la fin, que moi je ne vous réponds pas. Vous allez voir comment ça fait, c'est vachement agréable quand on vous pose une question que les gens ne vous répondent pas. Vous allez voir si vous me posez la question, vous allez bien monsieur Gault? Je ne vous réponds pas, d'accord? Regardez bien, non mais il y a des textes comme ça, il faut les expliquer. On ne peut pas faire une étude sur l'occultisme sans comprendre des points ou des mots qui sont utilisés par Dieu. Regardez Matthieu, chapitre 17, verset 14. C'est important mes frères et sœurs, parce que les gens mélangent tout. Même des chrétiens parfois. Et c'est ce qui fait que les pécheurs sont contrariés lorsqu'ils voient certains chrétiens qui sont complètement déséquilibrés. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de moi, de mon fils qui est lunatique. » Vous voyez des maladies qui étaient attribuées à l'époque aux influences de la lune. « Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Je l'ai mené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. Bon, alors vous comprenez bien, les apôtres n'étaient pas pervers moralement. C'est une perversion spirituelle. C'est une déformation de la vérité. Au musée Grévin à Paris, il y a des miroirs déformants. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est des miroirs déformants. Moi, si j'y vais, je me trouve tout mince. Vous voyez, les gens petits sont grands, les gens gros sont comme des aiguilles, etc. C'est des miroirs déformants. C'est ça la perversité. Ça vous fait voir les choses comme elles ne sont pas. Alors ça vous fait rire pour le miroir, pour le musée. Mais c'est vrai pour certaines choses aussi. Le diable, il arrive à vous faire voir des choses fausses comme étant vraies. Et c'est pour cela que les hommes s'éloignent de Dieu et sont aujourd'hui dans les ténèbres. On va lire d'autres textes. J'y tiens parce que tout ça vous ne comprenez peut-être pas tout, mais si vous prenez des notes et que vous prenez les textes, vous verrez que c'est comme un faisceau qui éclaire un puzzle. Dans Ézéchiel, dans le prophète Ézéchiel au chapitre 8, j'en ai parlé mardi, mais ça vaut la peine. Je voudrais apporter la prédication comme je l'ai construite, bien sûr, cette semaine. Ézéchiel chapitre 8, si vous lisez le chapitre Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, c'est compliqué Ézéchiel. Mais ça vous montre que la gloire de Dieu est sortie du temple. Alors au chapitre 8, il faut lire ces choses. Parce que les gens, vous voulez la grâce de Dieu? Parce que le but, c'est de la lumière, comme on l'a chanté. Ou essayé. Comme on l'a chanté. On l'a chanté, oui. Ouais, comme on l'a chanté. Le but, c'est la lumière. Le but, c'est de connaître le Seigneur. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Un chrétien, comme je l'ai dit la semaine dernière, même s'il ne maîtrise pas toutes ces choses, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il doit savoir, si c'est mauvais, il doit absolument s'en éloigner. Car s'il ne s'en éloigne pas, c'est Dieu qui s'éloignera de lui. Ézéchiel 8, regardez, verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Il me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie. Vous avez vu ça? Ce qu'ils avaient réussi à faire? Ah mais je vous dis, quand on ne veut pas prier Dieu, on cherche des choses pour remplacer la prière. L'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël, telle était là, telle que j'avais eu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion, à la porte de l'autel. Elle n'était pas à l'autel, mais elle était à la porte, à l'entrée. Donc vous voyez, ça commence mal quand même. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël? Et regardez la suite. C'est ça qu'il faut retenir. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ma pensée. Il y a des choses qui éloignent Dieu. Et quand on voit le résultat, vous savez comment le temple de Jérusalem a fini? En l'an 70? Comment il a fini le temple de Jérusalem? Il a été détruit. Alors que c'était la gloire sur la terre. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui détruisent notre vie. C'est pareil, puisque nous sommes, nous, comme disait Nicolas tout à l'heure, les églises ne sont pas des bâtiments, l'église dans la Bible, c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes. Et quand vous regardez l'Apocalypse, c'est clair, ceux qui pratiquent les sciences occultes, la magie, les idolâtres, où ils finiront? En enfer. Ça vous plaît, ça vous plaît pas? Moi, écoutez, c'est comme ça, c'est écrit. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui aiment les ténèbres. Ils préfèrent les ténèbres. C'est pour ça l'histoire des miroirs déformants. Et les gens, ils en arrivent. Il y a des faux évangiles. Moi, une fois, on m'a dit, vous avez lu l'évangile de Thomas? Ah, j'ai dit, non, il n'est pas dans la Bible. Si, monsieur Go, je vous assure, vous l'avez pas lu. J'ai dit, écoutez. Et il y a comme ça, il y a plein d'évangiles, il y a plein de livres qui sont des pseudo-livres chrétiens. Ce sont des livres remplis de puissantes ténèbres qui amènent les ténèbres. Et quand dans le corps d'un homme, dans le cœur d'un homme, dans l'esprit d'un homme, on amène certaines choses, Dieu s'éloigne. Il ne faut pas s'étonner. On dit des fois, oui, on ne comprend pas, si Dieu était là. Oui, mais le problème, c'est qu'on a chassé Dieu. On n'en veut pas de Dieu. Par contre, si vous aimez Dieu, vous serez gardé. Si vous aimez Dieu, vous serez protégé. Si vous acceptez Jésus-Christ, le sang de Jésus vous protégera toujours. La fin de ceux qui pratiquent les sciences occultes sera exactement la même fin que celle du diable. Au départ, l'enfer, il avait été créé pour qui? Pour le diable et pour ses anges. Et c'est comme ça, parce que les gens aiment les ténèbres. Ils vous diront, mais non. Et voilà. Est-ce que vous aimez les ténèbres? Il y a peut-être des gens parmi nous qui préfèrent les ténèbres. C'est votre choix, c'est pas nous qu'on essaiera de vous dissuader. Si vous aimez les ténèbres, eh bien vous le payerez cher. Vous connaissez le premier des 10 commandements? Alors, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux et des choses qui sont sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. On va le lire. Parce qu'il y a un texte qui n'est pas compris. J'entends des âneries là-dessus. Les Deutéronome 5. Regardez bien. Il y a des âneries. Mais dans l'église, hein. Il y a des gens, des fois, qui arrivent d'Afrique avec de ces conceptions spirituelles. Ils ont entendu ça dans les églises. Et justement, on va le lire. Deutéronome, chapitre 5, verset 7. C'est important, frères et sœurs. C'est pour ça que les gens sont tombés dans l'occultisme. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des... Alors regardez bien, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors je voudrais vous donner une explication, parce qu'on ne peut pas, dans le cadre de cette étude, passer à côté de la lumière. Dieu dit donc que ceux qui pratiquent les ténèbres seront maudits sur 3 ou 4 générations. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Et que ceux qui pratiquent le bien seront bénis sur 1000 générations. Si on prend la moyenne, une génération, c'est 40 ans. De toute façon, ça voudrait dire que si moi je fais le bien, si je fais le bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Aidez-moi. Ça veut dire que 1000 générations vont être bénies. Donc la 500e génération ne peut pas faire le mal. La 501e, etc. Si je fais le mal, 4 générations vont être maudites. Mais si je fais le mal, il y a de fortes chances que si la 2e génération elle est maudite, hein, elle fasse aussi le mal, donc la 6e génération sera maudite. Et moi j'ai entendu de ces choses, oui mais vous comprenez, il est dit que si mes parents ont pratiqué la sorcellerie, mes enfants sont maudits, etc. parce que c'est sur 4 générations. Mais c'est pas ça, vous comprenez bien que c'est irrésoluble ce truc. Déjà, comptez 40, rien que 40 années, et vous allez voir que quelqu'un qui a été béni dès le départ de la création, il y a des milliers d'années. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez bien, parce que c'est grave, c'est pour ça, n'écoutez pas n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simple. Ça veut dire que la bénédiction, elle noie, N-O-I-E, la malédiction. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la bénédiction sera toujours plus grande que la malédiction. Et les gens ont été amenés par des mauvaises interprétations à de la superstition. Est-ce que vous comprenez ? Et la superstition, c'est le doigt dans l'engrenage. Les gens commencent à être superstitieux. La superstition, ça fait partie des sciences occultes. Moi, quand j'étais petit, on me disait, voilà, si un chat noir traverse, fais demi-tour. Parce que ça porte malheur. Il ne faut pas ouvrir un parapluie dans la maison. Parce que si tu ouvres un parapluie dans la maison, ça porte malheur. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai failli me faire tuer par ma mère. Parce que on était à fond dans la superstition. Mais ça met une crainte. Ça amène la crainte. Alors, ça, des choses, ça fait rire. Mais la crainte, qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible ? Ce que tu crains ? C'est ce qui t'arrive, les gens sont tellement dans la crainte que c'est la porte ouverte à l'occultisme. Et comme on craint, on finit par après consulter un médium qui va essayer de lire dans la boule de cristal des choses. Et même s'il y a des charlatans, je peux vous dire qu'il y a des gens qui voient vraiment des choses qui viennent pas de Dieu, bien entendu. Dans l'Ancien Testament, l'occultisme était puni de mort. Je sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, comment est considéré l'occultisme, d'après vous ? Comment ? Ouais. Quelque chose d'épanouissant. Les scientifiques s'y intéressent. J'ai lu des bouquins et des scientifiques s'intéressent à l'occultisme. Je vais vous donner un document que j'ai lu. Une jeune fille, Angéline Cotin, manifeste de tels dons, de clairvoyance, etc., que les plus hautes instances scientifiques s'y intéressent. Voici une partie du rapport du professeur Arago de l'Académie des sciences. J'ai vu 2 fois la jeune fille électrique, comme ils ne croient pas aux sciences occultes, ils l'ont appelée la jeune fille électrique. Une table à manger d'une moyenne grandeur et assez lourde a été plusieurs fois poussée et déplacée par le seul fait du contact de ses vêtements. Un canapé fort, grand et lourd sur lequel j'étais assis a été poussé violemment jusqu'au mur. Les jeunes filles Fox inventent le code spirit. Ainsi le terrain sera pris pour celui qu'on appelle le prince des médiums. Alors j'ai lu... Alors, il y a un autre savant, Douglas Home. Ce dernier était capable, devant témoin, de se déplacer dans les airs. Vous voyez, qu'on appelle ça, la lévitation. Alors, il y a des textes, ça vaut la peine d'y réfléchir, de regarder combien on peut être lié à la puissance des ténèbres. Quand vous lisez la Bible, vous vous connectez à quoi ? À la puissance de Dieu, à la grâce de Dieu. C'est clair. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous vous connectez à la grâce, à la miséricorde. Vous avez besoin de pardon, vous obtenez le pardon. Vous avez besoin de grâce, voilà, c'est ça. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais plus vous êtes sensible aux choses de Dieu, plus vous vous connectez à la lumière, à la vie. Quand vous commencez à vous embarquer dans des choses que Dieu dit qu'elles sont interdites, vous vous connectez et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des conséquences, que vous soyez chrétien ou pas. Vous allez sur un banc qui vient d'être peint. Vous n'avez pas vu qu'il y avait écrit « Attention, peinture fraîche ». D'accord, vous asseyez, vous restez assis un quart d'heure. Que vous ayez vu le panneau ou que vous n'ayez pas vu le panneau, les conséquences, est-ce qu'elles sont pareilles? Est-ce qu'elles sont pareilles les conséquences? Oui, elles sont pareilles. C'est pareil. On est responsable. Les gens ne se rendent pas compte. Après, quand même, on devrait être soucieux. C'est pour ça que je dis, mes brebis, elles connaissent ma voix. Alors, il y a plusieurs, je voudrais vous donner moi des témoignages. Quand j'étais à Tahiti, je suis arrivé dans l'église, il y avait un monsieur, il avait son fils qui était toujours malade. Toujours. Toujours. Il l'a amené à l'hôpital, il restait 3 jours, 4 jours. Il allait mieux. Et ça a duré, et il repartait. Et 8 jours après, paf, il avait autre chose. Ce gars, il n'en pouvait plus, il est venu à l'église. Et on lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on ne sait pas ce qu'il a, ça fait des mois qu'il est malade, et ça empire, il a une maladie, il va à l'hôpital, on le soigne, il ressort, 3 jours après, il rentre à l'hôpital, ça fait des mois et des mois que ça dure, on n'en peut plus. Avec ma femme, on est épuisé, on n'en peut plus, c'était des Chinois, ils n'en pouvaient plus. Et en discutant avec eux, mais je dis, qu'est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose, tout ça, dernièrement? Non, rien. Puis, si on a acheté une maison, on a acheté la maison. C'est vrai que quand on a fait construire la maison, on l'a acheté, on a fait des travaux, et on a le maçon qui nous a dit, voilà, si vous voulez que la maison soit protégée, il vous faut mettre un sac de riz à chaque pilier de la maison, l'enterrer, et voilà, la maison, elle sera protégée par Dieu, etc. Et en vérité, ça avait été voué au diable, bien entendu. Et on lui a dit, ben voilà, vous allez à la maison, vous déterrez le riz, vous le jetez, vous demandez pardon à Dieu, et votre fils sera guéri. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont partis, ils ont obéi. Ils sont partis, la pelle, la pioche, ils ont déterré les sacs de riz qui avaient été voués à Satan. Ils les ont jetés, je sais pas ce qu'ils en ont fait. Ils sont revenus, ils ont demandé pardon. Et quand ils ont déterré leur fils a été définitivement guéri. Et les gens ne se rendent pas compte. Ils acceptent. C'était à Castres, il y a longtemps de ça, ça fait 36 ans. Il y avait une jeune fille qui était tout le temps pareille, liée par les ténèbres. Tout le temps déprimée, elle était folle. De plus en plus forte. Ils avaient été voir un guérisseur qui lui avait donné une boîte qu'il fallait qu'elle, une espèce de pendentif, qu'il fallait qu'elle porte autour du cou et surtout ne jamais l'ouvrir. Alors tu me disais donc, parce que si elle l'ouvrait, elle risquait de mourir. Alors le pasteur, j'étais juste tout nouveau, moi j'écoutais. Et le pasteur a dit, donnez-moi le pendule, donnez-moi ce pendentif, moi je vais l'ouvrir. Non, je ne peux pas l'ouvrir, on fait ça. J'en prends responsabilité, laissez-moi l'ouvrir. On va prier, laissez-moi l'ouvrir. Et dans le pendentif, il y avait écrit, je donne mon âme à Satan. Et bien sûr, ils ont brûlé tout ça, ils ont prié, et la jeune fille a été guérie. C'est écrit. Toutes ces choses, il faut les dénoncer. Alors comme je l'ai dit, oui, il y a des charlatans. Oui, il y a des tours de passe-passe. Mais il y a vraiment, je parlais tout à l'heure de la lévitation. Une fois, moi j'avais ouvert la télé, je voulais voir les informations. Et justement, il y avait une émission comme ça, je n'ai pas regardé longtemps. Mais il y avait un gars qui, par le regard, il soulevait un piano. Il soulevait un piano. Et après, j'ai regardé 5 minutes, c'est vrai que c'est pas bien. Et il soulevait un piano. Puis après, il a mis un gars à côté, jouer à côté, il est retombé. Il met un gars à côté qui jouait. Le gars, il montait et il était sur son petit fauteuil et il tournait, il montait avec en jouant du piano. Mais il faut être sérieux. Moi, je crois au tour de passe-passe, le gars qui cache une carte, qui tout ça. Mais il faut bien que quelqu'un le bouge, le piano. Oui ou non? Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui le porte, le piano. et les gens s'imaginent que c'est des ondes, etc. Ça va pas du tout. Alors c'est vrai que les gens ils sont crédules là-dessus, mais mes frères et sœurs, si vous avez fait ces choses, mettez-vous à genoux et demandez pardon. Vous croyez que c'est inoffensif, mais moi je peux vous dire que ça existe. Les conjurations. J'ai pris le dictionnaire, vous savez, je me suis pas beaucoup cassé la tête. Conjuration, action surnaturelle par laquelle on commande à des puissances maléfiques. Vous voyez? Mais ça existe, et je pourrais vous citer d'autres exemples, c'est pas le but. Franchement, c'est pas le but. Mais ça existe. Nous, on est là, dans notre petit monde, des fois, de bisounours. Mais laissez-moi vous dire que ça existe. Et tant mieux si on est protégé. Et tant mieux, pour être, en même temps, c'est bien de pas tout savoir. Vous comprenez? Mais il faut se garder. Il faut se garder quand n'acceptez jamais que vous soyez conscient ou pas, que vous soyez responsable ou pas, les conséquences, elles y seront. Si vous priez le Seigneur Jésus, les conséquences, elles y seront. Il n'y a qu'un médiateur. On va le lire ce texte, parce que on peut parler de ces définitions de tout ce qui est occulte, mais n'oubliez jamais ceci, dans 1 Timothée. Il faut lire ces choses. Ce sont des versets qui répondent à tout ce qu'on peut partager. Il faut comprendre une chose, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, c'est écrit dans la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 5. Ce sont des versets, d'ailleurs les jeunes là qui avaient à cœur d'évangéliser, retenez, apprenez-les par cœur ces versets. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 5. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regardez bien. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Le seul moyen d'aller à Dieu, vraiment au Seigneur Dieu, notre Père Céleste, le Dieu de la lumière, c'est Jésus-Christ. Toute autre forme n'est pas de Dieu. Vous pouvez dire ce que vous voudrez. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À partir du moment où vous priez quelqu'un d'autre, ce n'est pas agréé de Dieu. Faites-le si vous voulez. Et moi, je peux vous dire que même la Vierge Marie, même la Vierge a dit dans le cantique, le Magnificat, qu'elle avait besoin d'un sauveur. C'est écrit, oui ou non? Vous savez que c'est vrai. Donc toutes ces choses sont là, il faut en prendre compte. Il faut faire attention. Vous voyez, la nécromancie, l'art d'évoquer les morts par la magie. Des esprits mauvais se font passer pour les esprits des morts. Tout à l'heure, j'ai discuté avec une dame ici, qui me disait qu'elle a une voisine qui entend la voix de sa grand-mère, ou de sa grand-mère, ben je dirais, quelqu'un de sa famille. Et je peux vous dire que c'est un démon qui imite la voix de sa grand-mère, mais quand elle va se renseigner, elle va se rendre compte que cette femme a pratiqué certainement la voyance, tiré les cartes, etc. Non, voilà, c'est obligé. Et quand on en arrive là, laissez-moi vous dire que c'est pas bon signe. On a besoin. Alors il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Il y a des délivrances qui se font simplement par la prière. Moi je sais que moi j'avais contacté des guérisseurs, des sorciers. Dans ma maison il y avait que ça. Il y avait que ça dans ma maison. Je me souviens une fois j'avais été voir un guérisseur. J'avais un problème et il me dit assis-toi. Je ris, pas envie de rire. Et il me dit assis-toi. Il me met la main, où t'as mal? Alors, il me met la main sur la jambe, il me dit, lève-toi, je me lève, bam, je suis tombé raide. Et je peux vous dire que dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu que les ténèbres existaient. Et le soir de ma conversion, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'est passé dans le silence, j'étais à ma place. Le pasteur disait, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, qu'ils le fassent. Mais moi, j'ai baissé la tête et j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. J'ai été instantanément délivré. Il n'y a pas eu besoin de séance. Il y a des gens. Non, vous croyez que la repentance vous délivre. Après, il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Est-ce que vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Je le sais. Et j'ai vu, et si on est venu à Dieu dans ma famille, c'est parce qu'on avait vu toutes ces puissances de ténèbres dans ma maison. Ma mère a vu des apparitions dans la maison. Des trucs de fous. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à aller voir des guérisseurs qui jetaient des sorts, parce qu'en France on les appelle les guérisseurs, en Afrique on les appelle les sorciers, mais qu'importe le nom qu'on lui donne. Ce qui est important, c'est que vous sachiez que ces personnes-là ne travaillent pas pour Dieu. Ces gens-là travaillent pour le diable, même si certains font certaines prières, et oui, mais je suis rebouteux, je fais des prières à Dieu, mais quand vous lisez, enfin moi je ne l'ai pas lu parce que je ne veux pas le lire, mais je le sais parce qu'on me l'a dit. Vous savez qu'il y a des livres ou avec des formules magiques, comme le grand Albert. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi, l'autre fois, j'étais sur un marché à Toulouse, il était en vente. Oui. Petit livre, le grand Albert, le petit Albert. Ce sont des livres, je vous déconseille, moi je ne les ai jamais lus. Et je ne les ouvrirai pas. Et je n'ai pas peur de les ouvrir. Mais je pense qu'il vaut mieux pas se mêler à ces choses. Parce que la Bible nous le demande. Et la curiosité, il faut qu'elle soit dans un bon sens. Parce que la curiosité, ça peut être très mauvais. Alors, toutes ces choses-là, il faut y faire vraiment attention. Alors, le spiritisme. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit, on a commencé, on nous avait dit qu'on pouvait faire tourner les tables. Alors, on a voulu s'amuser. Alors, on s'est mis en cercle, etc. On a pratiqué, on a mis des verres parce qu'on avait dit, voilà, un coup, c'est oui, deux coups, c'est non. Voilà. Et ils ont commencé. Et puis, après, à un moment donné, on a dit, voilà, est-ce qu'on peut faire des choses? Et ils l'ont fait. Et il y a une jeune fille qui s'est retrouvée collée contre le mur avec la table, elle a failli mourir. Et il a fallu ça pour qu'elle se rende compte que c'était diabolique. Elle est venue au Seigneur, c'est peut-être une fille d'ici d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Mes frères et sœurs, c'est sérieux ces choses. Et je vais vous faire un document avec la définition des mots tel que je crois que c'est bon. Il y a des choses, on se demande si c'est occulte. L'homéopathie, par exemple. Voilà, on va aborder un sujet. L'homéopathie. Alors écoutez, je vais vous donner un conseil. Il y a quelques années de cela, je m'étais posé beaucoup de questions sur l'homéopathie parce que j'avais entendu tout un tas de trucs. Et on a fait venir un pasteur, qui est docteur, qui a fait une étude sur l'homéopathie. Elle est ici, l'étude. Vous pouvez la commander, on vous la donne si vous voulez. Il s'appelle le docteur Klopfenstein. Il a fait une étude sur l'homéopathie. Et je peux vous dire que ça fait réfléchir. Moi, je ne suis pas docteur. Je ne suis pas capable de vous expliquer ces choses. Moi, que l'eau ait une mémoire, ça commence à m'inquiéter. Vous voyez? Ce qui est certain, c'est que la plupart des homéopathes recourent aux sciences occultes pour connaître les diagnostics des maladies, etc. Alors, le mieux, c'est que vous... C'est, parce que là, ce n'est pas en deux minutes que je vais vous l'expliquer. Mais écoutez le résumé de ce docteur, pasteur, qui s'est vraiment penché sur le problème de l'homéopathie. L'acupuncture, qu'est-ce que vous en pensez de l'acupuncture? La philosophie, et toute la philosophie orientale d'ailleurs, tout ce qui vient de l'Orient, les énergies vitales, les méridiens qui distribuent l'énergie dans le corps, etc. L'énergie serait contrôlée par le yin et par le yang, les opposés universels négatifs et positifs. Toute maladie résulterait du manque de balance entre ces deux opposés. Les aiguilles plantées judicieusement permettraient de rétablir cet équilibre. Moi, je n'ai pas, la prétention de tout vous enseigner. Mais je pense qu'il y a des choses, il vaut mieux chercher à savoir l'origine. Par exemple, un sujet qu'on me pose souvent, les plantes. La guérison par les plantes. Enfin, vous allez rire. Est-ce que c'est bien la médecine par les plantes? Mais bien sûr. Mais il y a les naturopathes, et laissez-moi vous dire qu'il y a des naturopathes qui ont des magies, qui font de la magie, des sciences occultes, ceux qui cherchent les esprits avec les plantes. Alors moi je suis pour la médecine par les plantes. Renseignez-vous. Si un naturopathe se commence à vous dire, ouvrez bien les yeux, je veux voir ce qu'il y a dans votre iris, je veux voir s'il n'y a pas quelque chose dans votre corps, quelle plante vous avez besoin, là je pense qu'il vaut mieux peut-être, vous voyez. Et tout ça, bien sûr, ça fait sourire et tout. Mais il y a une dame qui avait dit un jour à un pasteur, j'étais voir une iridologue et elle m'a regardé et elle m'a dit, voilà, vous avez telle maladie, il vous faut prendre telle plante, etc. Et puis je vais vous imposer les mains et tatati et tatata et prononcer des formules magiques. Quand on en arrive là, il vaut mieux peut-être faire attention. D'accord ? La radiesthésie, le pendule. Là aussi, souvent on me pose la question, la radiesthésie. Des gens qui ont du magnétisme. Est-ce que ça peut arriver que des gens aient du magnétisme ? Alors, soyons pratiques. Parce que là aussi, moi j'ai tout entendu. Des gens qui, par le magnétisme qu'ils ont dans le corps, sont capables de détecter des sources d'eau. Comment ? Ça existe ? Alors, moi je vous assure, moi j'ai connu un oncle qui avec ses mains et un bâton détectait l'eau. Mais quand on se renseigne, il y a des radiesthésies, enfin ceux qui font de la radiesthésie, des magnétiseurs qui vont beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables, avec une carte, de vous dire, là, il y a telle eau, dans tel endroit, vous trouverez de l'eau. Alors là, vous comprenez bien qu'on n'est plus dans le magnétisme, on est dans la radiesthésie. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on peut pas tout, moi je pense qu'on peut pas tout expliquer. Mais quand on en arrive à invoquer des esprits pour savoir s'il y a de l'eau à tel endroit, il vaut mieux que vous pensiez que vous n'avez plus affaire à un magnétiseur. Vous avez affaire un radiesthésiste. Je pense que lorsque la personne a cette, qu'on appelle ça, ce magnétisme, je ne sais pas, moi j'ai connu quelqu'un, je vous dis qu'il y en avait. Et mais ça s'arrêtait là. Mais vous comprenez bien que c'est ambigu ces choses. Est-ce que vous me comprenez ? C'est archi ambigu ces choses. Hein ? La radiesthésie, avec les cartes, moi j'y crois pas trop, hein. Il vaut mieux se méfier. C'est Osée qui dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple interroge son bois, son bâton et son oracle, car l'esprit de fornication égare, il se prostitue et se soustrait à Dieu. » La télépathie. Vous avez déjà entendu parler de la télépathie ? Des gens qui communiquent entre eux ? Lors des séances occultes, ouais. Alors il y a toutes ces choses. Je vais vous faire un document. Je veux vous le faire. Vous réfléchirez. J'essaierai de prendre dans les dictionnaires bibliques tout ce qui est dénoncé par Dieu. Après, moi, je ne suis pas compétent. Je sais une chose, c'est que je m'en éloignerai toujours. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Ce que vous devez savoir, c'est ce que Dieu dit. Mais après, il y a des choses qui sont graves. Les fausses religions, est-ce que c'est aussi grave que l'occultisme, les fausses religions ? Tiens donc, on peut en parler, puisqu'on est dans un domaine occulte, caché. C'est Paul qui parle de notre Jésus, le Jésus des Mormons, le Jésus des témoins de Jéhovah. Est-ce que c'est le même que le Jésus de la Bible ? Eh non. Lisez le livre des Mormons et regardez comment l'ange Moroni s'est adressé à l'instigateur des Mormons et vous allez voir que c'est pas net du tout. Il vous parle de Jésus à peu près comme nous. Quand vous regardez comment les témoins de Jéhovah parlent de Jésus, laissez-moi vous dire qu'ils ne parlent pas de Jésus comme nous. On n'a pas la même religion. Quelqu'un me disait un jour, oh c'est pareil. Mais vous voyez, les gens ne lisent pas la Bible. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux autres religions. Regardez si leur doctrine est biblique. Est-ce que la Bible parle des doctrines de démons ? Vous vous rendez compte ? Des doctrines, donc ça fait allusion au spirituel. Et pourtant, c'est des doctrines de démons. Il faut lire ces choses, vous voyez ? Regardez bien dans 1 Timothée chapitre 4. Et c'est, vous voyez, c'est la preuve que c'est occulte. Certaines doctrines sont occultes, donc diaboliques. Il n'y a pas que la sorcellerie, les radiesthésistes, les médiums, etc. Je vous dis, il y a le yoga, vous voyez ? Moi, j'ai connu un frère à qui on a conseillé, il ne savait pas, il venait de se convertir, on lui a conseillé de faire du yoga. Et quand il a fait du yoga, on dit voilà, il a été faire du judo parce qu'il avait des problèmes de santé. Faire du judo, puis le judo, on lui a dit voilà, maintenant vous allez vous détendre, vous allez fermer les yeux, vous allez prendre telle position, vous allez abandonner votre volonté. Ça, je peux vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Un chrétien, il doit toujours conserver sa volonté. Toujours. Et quand on amène les gens à se libérer de leur propre volonté, et le gars, il a commencé à voir son corps descendre dans le béton. Il a eu la trouille de sa vie. Il m'a dit, il venait de se convertir. Il me dit, je savais que c'était diabolique. Et il s'est renseigné un peu. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Il vous expliquerait vraiment ce qui s'est passé. Tout ce qui nous pousse à nous soustraire à soustraire notre volonté n'est pas bon. C'est pour ça que l'hypnose. Quand on pousse des gens à se déshabiller entièrement, on peut vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Et c'est en train d'être accepté. Alors les doctrines de démons, regardons 1 Timothée 4, verset 1er. Ça aussi, c'est les gens, ils vont n'importe où, dans n'importe quelle église, ils écoutent n'importe quoi. Moi, tout à l'heure, cette semaine, on m'a passé deux livres. Monsieur Gault, lisez-les, c'est bien. Un chrétien qui m'a passé deux livres. J'ai lu 10 pages au premier et 2 pages au second. C'est déjà paru biblique. Et c'est un chrétien. Mais c'est tellement bien. Entourloupé, entouré, décoré, vous savez, comme un cadeau avec des rubans partout. Et le chrétien, il ne se rend pas compte que c'est une fausse doctrine. Ouais. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. C'est l'apôtre Paul qui parle. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, etc. Donc il y a des doctrines de démons. Ça, c'est la porte ouverte à l'occultisme, comme la superstition. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont superstitieux? Est-ce que d'après vous, ça existe? J'y reviens parce que je me sens poussé à y revenir. C'est le premier pas vers l'occultisme. Moi, j'ai vu des chrétiens qui avaient peur. Ils avaient peur de certaines choses, du chiffre 13. Ah, moi, je ne dors pas dans une chambre 13. D'ailleurs, certains vous disent que ça porte malheur, mais d'autres vous disent que ça porte bonheur. Vous savez qu'il y a des hôtels maintenant, il n'y a plus la chambre numéro 13. Est-ce que vous le savez? Il y a des hôtels, il y a même, je ne sais plus où, aux États-Unis, ils ont construit un immeuble, ils ont même, il n'y a pas l'étage 13, l'étage 11, l'étage 12, 14. Parce que les gens ne veulent pas dormir au 13e étage. Ouais. Mais ils diront qu'ils ne croient pas en Dieu, mais qu'ils ne veulent pas rien à faire pour le chiffre 13. Et il y a des millions de gens qui vont jouer au loto le jour de, si ça tombe, un vendredi 13. Vous voyez? En plus, c'est souvent ça part de choses bibliques, vous voyez. Le vendredi, Jésus-Christ est mort, 13, ils étaient 13, les 12 plus Jésus, dont il y en a un qui a porté malheur. Moi, c'est déjà arrivé, quand on est nombreux à manger à la maison, on est combien à manger ce soir à la maison? 14. Ah, ma fille, ça me va, on sera que 13. Ah, oui. Non, mais je ne sais pas s'il faut rire ou pas. Mais mes frères et sœurs, ça vous montre combien les gens sont liés par certaines choses. Et il faut demander pardon. Vous n'avez pas à être superstitieux. Vous n'avez pas à croire dans l'astrologie. L'astrologie aurait plein de trucs à dire. Moi, je sais la date à laquelle il faut être né. Je la sais. Je vais vous la dire, la date. Entre le 1er janvier et le 31 décembre, il y a un signe. C'est le signe de la grâce. Alors, est-ce que vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre? Ça, c'est la boutade. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Pour les chrétiens, nous sommes dans la grâce de Dieu. Et toute cette astrologie. Moi, j'ai vu des gens devenir fous avec ces choses. Parce qu'en vérité, ils étaient sous une puissance de démons. Et toutes ces prédictions, toutes ces divinations, les gens qui ont besoin de savoir, qui vont voir des cartes anciennes, etc. Ce sont des choses graves. Hein. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est quelque chose d'interdit. Et si vous rejetez les commandements de Dieu, vous vous éloignez de Dieu et vous mettez dans la puissance des ténèbres. Surtout qu'après les choses, la preuve c'est que ces choses-là commencent à se réaliser. Moi je vous avais dit l'autre jour, j'ai connu une dame, j'étais rentré dans un magasin, il y avait un gars qui venait de se convertir. Il était en train de témoigner à une dame. qui tirait les cartes, et puis après, qui avait reçu des dons. Mais elle faisait ça pour s'amuser au début. Vous savez, pour s'amuser. Puis après, elle me dit, ah, mais dis-moi. Elle, j'ai été chez elle, je me rappelle, et quand je suis rentré, elle était pétrifiée. Elle coulait, je me demandais comment elle faisait, j'ai jamais vu ça. Elle transpirait comme si on avait un petit robinet sur sa tête. Mais moi, je regardais, je me demandais d'où ça venait toute cette eau. Parce que bon, tu peux transpirer la valeur d'un verre, mais ça a duré une heure. Elle a transpiré, elle était entièrement. Non mais, vous riez, mais je vous assure, c'était vraiment diabolique. Et puis elle m'a dit, voilà, mais moi, c'est le prêtre qui m'a demandé de le faire. C'est le prêtre qui m'a demandé de faire ces choses. Et j'ai cru que ça venait de Dieu. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à cette amie, etc. Parce que je me suis rendu compte que les gens me venaient de plus en plus pour des choses mauvaises. Pour faire tuer leur conjoint. Au début, venez, voilà, dites-moi si on va gagner au loto. Est-ce que vous n'avez pas le numéro? Ah bon, on ne nous a pas. Bon. Etc. Bien sûr que s'ils les avaient, en tant qu'eux, ils les auraient les numéros. Et non, mais fait bon. Et puis après, elle me disait, mais les femmes, elles, surtout des femmes, fait bon, je pense que... Elle venait me voir, elle me dit, est-ce que vous ne pouvez pas tuer mon mari? Vous avez vu? Ouais. Et elle me dit, je me suis rendu compte que j'étais lié au diable. Mais comme on me disait de le faire, j'avais un doute. Et j'étais tétanisé, j'étais dans la peur. Vous voyez? Ce sont des choses qui sont sévères et graves. Mais quand vous avez des prêtres qui tolèrent ces choses, et à ce niveau, je préfère ne rien dire, mais je peux vous dire que ce n'est pas parce que des gens croient en Dieu qu'ils ne pratiquent pas la puissance des ténèbres. La Bible nous met en garde, continuellement en garde. On va lire un autre texte, Lévitique 19:31. Je crois qu'on l'a lu la dernière fois, mais il y en a plein comme ça. Je vous les mettrai sur un papier parce que je n'ai pas le temps, je crois que l'heure approche, mais je voudrais vraiment, mes frères et sœurs, que vous fassiez attention à toutes ces choses. Ne les écoutez même pas. La Bible dit de ne même pas les écouter. Lévitique 19, 19, oui, 19:31. Si vous voulez savoir sur le tatouage, vous lisez le verset 28, mais ça c'est pour une autre prédication. Lévitique 20, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 6 du chapitre 20. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera. Vous avez vu que ça rigolait pas à l'époque. Alors, oui, je vais vous le mettre par écrit, tout ça. Je le pense, pour la magie, etc. Il y a tellement de choses. Mais un chrétien qui obéit, ne peut pas être trop touché. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces deux réunions. Il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'un chrétien qui obéit à Dieu est intouchable. Vous vous rappelez dans le livre des Nombres, un certain Balak. Vous avez lu le livre des Nombres? Qui a lu le livre des Nombres? Levez la main comme ça me facilitera la... Bon. Dans le livre des Nombres, il y a un roi qui demande à un prophète, oui c'est le prophète, de maudire Israël. Parce qu'il s'est rendu compte que ce prophète, il bénit Israël, et Israël gagne toutes les guerres. Je le résume pour que vous compreniez bien. Et comme Israël s'approche de son pays, il se dit, il faut que ce prophète maudisse Israël. Et il lui demande, il va le soudoyer à des millions d'euros. Et bien sûr, on va quand même lire un verset qui nous intéresse, parce que c'est ça qui nous intéresse à nous. Ce qui nous intéresse, bien sûr que je vais vous faire l'article, je vous le ferai. Dans le livre des Nombres 24. Comment? C'est bien, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, oula, j'ai perdu le livre des Nombres, c'est grave. Hein? Lévitique, Nombres, pardon. Nombre 23. Ouais. On va lire le verset, Nombre 23, 20. Donc, Balak demande que Balaam prophétise la malédiction. Et regardez ce qu'il répond. Nombre 23, verset 20. C'est ça qui vous devez savoir. C'est pas trop savoir ce que la magie blanche, la magie noire, la sorcellerie, etc. C'est sûr. Bien sûr qu'on peut envoyer des mots par à distance. Les sorciers, ça existe. Nombre 23, verset 20. Voici, il répond au roi. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement, regardez bien, ça vous pouvez l'apprendre. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous avez vu? C'est ça qui est important. La sorcellerie, la divination, la magie, rien ne pouvait toucher Israël dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce qu'ils obéissaient. Parce qu'ils obéissaient. La sorcellerie ne peut rien vous faire. Si vous êtes sous le sang de Jésus-Christ, je le répète, on ne peut rien vous faire. Le diable ne peut pas vous toucher. Si vous le croyez, vous faites Satan l'égal de Dieu, ou pire, Satan supérieur à Dieu. Mais ça, c'est vraiment grave. C'est la preuve que vous ne connaissez pas Dieu. Si vous êtes au Seigneur, le diable ne peut pas vous toucher. Par contre, vous connaissez la suite de l'affaire? Vous savez comment ça s'est soldé? Balaam est considéré comme un homme diabolique. C'était un prophète, un homme de Dieu, hors pair. Et quand vous lisez la suite, Balaam, il a appelé le roi, il a dit, écoute, tu sais, la malédiction ne peut pas toucher Israël. Tu ne peux pas gagner. Mais je vais te dire comment il faut faire. Et il lui a donné un bon conseil, un très bon conseil. Il lui a dit, tu vois, t'envoies tes femmes, les femmes, les jeunes filles, couchées avec les hommes d'Israël. Dont l'adultère, c'est grave. Hein? La Bible parle plusieurs fois de la voix de Balaam. Les garments de Balaam. C'est où, c'est dans? Nombre 25. C'est ça qu'il faut comprendre. En vérité, moi je vais vous le faire. Mais je sais que l'important, c'est que vous sachiez ça, là. Nombre 25. C'est archi grave. Et comment il a... Enfin, c'est grave. Hein. Comment il a été tué après cet homme. Nombre 25. Israël demeurait à Sittim. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor. Vous voyez, aux idoles. Et la colère, bien sûr, de l'Éternel simplement. Vous lirez la suite. Mais c'est l'Apocalypse, il faut le lire ça. J'avais pas prévu qu'on le lirait. Apocalypse 2, verset 14. C'est des choses archi graves, mes frères et sœurs. C'est ça qu'il faut que vous sachiez, c'est ça la lumière. Balaam, un homme de Dieu, a été attiré par l'argent. C'est pas le seul, hein. Vous demanderez à Judas. Ici, il s'y connaissait. Quand on voit comment ils ont fini ces hommes... Moi, j'ai cherché l'autre jour pour savoir comment Balaam était mort. Vous lirez la suite, hein. Vous allez voir comment il est mort. Apocalypse 2, verset 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Oui, c'était toute une doctrine. Regardez bien si c'était beau. « Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Et ce que la divination, la sorcellerie, la malédiction du diable n'a pas pu faire, eh bien, la désobéissance l'a fait. Vous voyez, ce sont des choses archi sévères. Quand on voit comment Dieu parle de Balaam après, c'est vraiment, vraiment grave. Alors, vous voyez, j'avais fait toute une étude sur le spiritisme, sur le culte à Satan. Je vous le ferai mais je vais conclure. Alors, il y a des choses qui sont charnelles. Vous êtes d'accord? Il y a des choses, c'est lié à la maladie. Il y a des choses, c'est démoniaque. Alors, la chair, elle ne se chasse pas. La chair, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la faire mourir ou la crucifier. Les deux sont bibliques. Les démons ne se crucifient pas. Eux, il faut les chasser. Mais il faut savoir, par hasard, alors je vais terminer avec cette pensée. Alors, c'est dans Jean, chapitre 9. Dans Jean, au chapitre 9, il y a une situation où même les douze apôtres, c'est pas des rigolos, excusez-moi l'expression, c'est des gens qui ont passé des années avec le Seigneur. Donc, Jean, chapitre 9, il y a une situation de maladie, d'un aveugle. Donc, les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Regardez, vous y êtes? C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Jean, chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, ils étaient sûrs d'eux. Qui a péché? Vous voyez? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle? Parce que pour eux, il n'y a pas à faire. La maladie venait automatiquement du péché. Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, ils ont posé une question un peu compliquée. Qui a péché? Lui? Donc, il aurait péché où? Dans le ventre de sa mère. Vous voyez qu'à force de... On en dit des âneries. Mais c'était bien. Dieu a permis qu'il pose cette question, peut-être, je ne sais rien. Ils ont posé la question. Mais regardez ce que Jésus dit. C'est ça qui est important. Jésus a pu répondre oui. Les parents, mais quand même, les parents, c'est les parents qui ont péché, ça ne peut pas être le petit. Mais Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors quelqu'un qui connaît bien la Bible pourrait me dire, oui, monsieur Gros, mais quand même, toutes les maladies sont la conséquence du péché. D'accord, mais là quand même, vous avez la preuve qu'il y a des choses que Dieu peut permettre, ça n'a rien à voir avec le péché, ça a à voir avec la souveraineté de Dieu. Dieu utilise cette situation, ça n'a rien à voir avec le péché, pour manifester sa gloire. Dans l'évangile de Luc, alors chapitre 5, il y a un malade, un paralytique. Jésus lui pose la question, est-ce qu'il va être guéri? Vous voyez? Vous trouvez pas ça bizarre? Vous auriez posé la question, vous, un malade qui est paralysé, est-ce que tu veux être guéri? Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Vous le savez? Il y a des gens, ils aiment les ténèbres. C'est pas le sujet, mais en fait, c'est... Alors regardez, bon, la personne répond, j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Lève-toi, lui dit Jésus, verset 8. Prends ton lit et marche. Au verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple. Oui, bon, c'est bien, il a fait une démarche spirituelle. Il va à l'église. Et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Enfin, de pire, il était paralysé depuis 38 ans. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être paralysé depuis 38? Je sais. Jonathan m'a répondu, papa, 39 ans. C'est vrai. Mais pire, c'est d'aller en enfer. Donc là, la maladie était liée à quoi? Au péché. Alors, on pourrait prendre plusieurs exemples. C'est très, très intéressant. Parce qu'il y a des gens, ils voient partout, il faut des délivrances, il faut délier les gens. Non. Il y a des gens, ils sont liés par le démon. Ils sont possédés. En principe, ils ne vont pas dans les églises. C'est très, très rare. Les gens, ils ne supportent pas. Moi, j'en ai vu plusieurs. Ils ne supportent pas. Certains veulent la délivrance. On a prié, ils ont été délivrés. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Des gens qui avaient, oui, qui avaient commencé, comme je vous l'ai dit, ils ont commencé à aller voir une tireuse de cartes, puis après un médium, puis après une sorcière, ou un rebouteux, etc. Voilà, de fil en aiguille, ils en sont arrivés à la magie, aux incantations, etc. Mais, une chose est certaine, il faut demander à Dieu du discernement. Et ne commencez pas à vous lancer dans un rôle de ministère de délivrance, parce que vous risquez de troubler des gens. C'est pas parce que quelqu'un vit certaines choses qu'il est possédé. Il y a des maladies, il y a beaucoup de maladies physiques. Moi, la dépression, il a fallu que ma femme fasse une dépression pour que je comprenne que la dépression, c'est un problème de, qu'on appelle dopamine dans le cerveau, mais vraiment. Je me suis renseigné, je peux vous dire, quand ça a touché ma femme, j'ai commencé à me renseigner avec des toubibs chrétiens, des personnes concernées, et il y a des endroits où la dépression est considérée comme quelque chose de diabolique. Certains même ont dit que la dépression, c'était des gens qui étaient possédés. Non mais pour vous dire un petit peu. Quand vous voyez comment Paul parle de ses angoisses, comment David parle de ses angoisses, etc. Et des hommes comme Élie et des hommes comme Jérémie, vous croyez qu'ils étaient possédés, hein? Oui, de Dieu. Rappelés de Dieu, oui, ça c'est sûr. Mais il y a des combats, il faut pas oublier qu'il y a des combats. Et la chose qu'on doit faire absolument par-dessus tout, c'est demander un don de discernement. Et puis confesser les péchés. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans Jacques 5, verset 16? Confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. Si vous avez péché, ou vous le réglez seul, ça suffit, ou vous avez besoin de le confesser. On va le lire ce verset pour terminer. Ça fait une heure que je prêche? Ça fait une heure? Ma femme, elle ne le croira pas. Ouais. Jacques chapitre 5. Voilà, la solution, elle est là. Vous savez, c'est simple avec Dieu de venir à lui, de venir au calvaire, de lui donner sa vie, d'être couvert par le sang du Seigneur. Moi, je vous assure, ce soir-là, ça a été terminé. J'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas eu besoin de séance de délivrance. Jacques chapitre 5. Verset 16. On va lire le verset 14. Ou plutôt à partir du verset 13, tiens. Vous n'êtes pas d'accord, Adeline? Non, parce que c'est complet. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Est-ce que ça peut arriver d'être dans la souffrance? Un chrétien peut-il être dans la souffrance? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Alors, qu'il prie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas écrit qu'il parle à Dieu? Ça veut peut-être dire qu'il écoute. Pour beaucoup de gens, la prière, vous voyez, c'est parler, le Seigneur, il récite, il parle. Prier, c'est pas toujours parler. Prier, c'est aussi écouter. Je suis dans la souffrance, ça serait peut-être bien que j'écoute Dieu pour qu'il me montre pourquoi. Est-ce que Dieu, dans la prière, peut nous montrer ce qui va pas? Oui. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Bon, ben lui, qui chante? Ça vous arrive de chanter? Vous aimez chanter des cantiques? Des cantiques, hein? Attention, hein? Des cantiques. Et spirituel. Je dirais à Jacques qu'il aurait pu rajouter spirituel. Quand je le verrai. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Bon, il y a des moments, il faut appeler. Il ne faut pas avoir honte d'appeler. Est-ce qu'on peut être suspendu? Voilà, priez pour moi. J'avais été voir une dame, il y a un monsieur qui m'avait fait appeler. C'était le patron d'un chrétien d'église. Sa fille était en train de mourir. Il l'avait ramenée de la clinique, de l'hôpital, il l'avait ramenée chez elle. Elle était dans le salon, il ne pouvait même pas la monter à l'étage. Elle était dans un lit, ils avaient mis un lit, elle était toute blanche, elle ne bougeait plus, elle ne m'entendait pas, c'est sûr. Elle avait les lèvres déjà toutes blanches, mais blanches comme quelqu'un qui va mourir. Vous avez déjà vu des morts, hein? Vous avez vu comment ils ont les lèvres. Et la fille, elle était dans le lit. Il me dit, voilà, elle pleurait comme des badolins, elle allait mourir. Il leur avait dit à l'hôpital. C'est pas vieux, il y a quelques mois de ça. Et donc, je commence à parler avec les parents, je dis, voilà, vous croyez en Dieu? Oui, on croit en Dieu, ça. Ils arrivaient tout juste à parler. J'ai dit, on va prier. Puis, au moment où j'allais prier, je dis, mais est-ce que vous avez consulté des guérisseurs? Mais oui, on avait été voir des magnétiseurs, des guérisseurs. Et j'ai dit, Dieu ne peut pas la bénir si on ne demande pas pardon. Ils étaient là, ils étaient effondrés, ils étaient assis par terre. Ils s'étaient effondrés. J'ai dit, vous ne pouvez pas demander pardon? Ils ne répondaient pas, mais j'ai dit, moi je veux le faire. Je vais demander pardon, mais vous pouvez dire amen. Je vais demander pardon à votre place. Et je sentais que c'était bien. Il faut le faire. Dieu ne peut pas guérir votre fille si vous ne demandez pas pardon. Si on ne demande pas pardon. Et j'ai dit, voilà Seigneur, on te demande pardon vraiment. Je te demande pardon pour ce que ses parents ont fait d'aller voir des guérisseurs et des médecins. Pardon d'avoir qu'ils aient consulté, etc., etc. Seigneur, mais je l'ai fait. Est-ce qu'on peut s'identifier à quelqu'un? Ben oui. Ouais, je ne les ai pas jugés, j'avais pas envie de les juger, je les plaignais, ça faisait mal au cœur. Et on a prié, je suis parti. Trois jours après, la cheville, elle a pris l'avion pour aller à Paris voir des amis. Et les parents, ils étaient complètement bouleversés. Pour ça, vous voyez, quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelqu'un qui appelle les hommes. Il faut prier les hommes. On va faire un jeûne. Demain soir, on va commencer un jeûne et prière. Vous pouvez mettre sur un papier, voilà, priez pour moi. Je suis pas bien. Je voudrais que mes parents se convertissent. Est-ce que ça plaît au Seigneur, ça? Eh bien oui. Vous voyez? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Quand c'est grave, il faut appeler les anciens. Que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile le nom du Seigneur Jésus. Vous voyez? Sans vouloir critiquer, mais l'Église catholique en a fait l'extrême onction. Et c'est pas du tout ça. C'est dommage. La prière sauvera le malade ou la prière de la foi? La prière de la foi sauvera le malade. Il ne faut pas prier pour prier. C'est une prière de foi. Je crois. C'est pas, je ne crois pas dans ma prière. Je ne me confie pas dans ma prière. Parce que je prie fort, parce que je prie longtemps, parce que j'ai une belle voix. C'est pas une question de décibels ou d'autorité dans l'art oratoire. C'est une question de foi. La prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, vous voyez, ça revient, ça. Comme quoi, certaines maladies peuvent être liées au péché. Presque toujours, c'est lié au péché. Mais il y a plein de gens qui meurent et ils sont malades. C'est pas pour ça qu'ils avaient péché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal. S'il a commis des péchés, confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs pendant 3 jours. On va se retrouver, si on peut. Si vous pouvez pas, vous le faites chez vous, c'est pas grave ça. On peut s'unir. Est-ce qu'on peut s'unir? Tiens, les chrétiens, ils sont à l'église. Ah, ils prient de midi à 1h. Eh bien, je vais prier avec eux. Demain, on vous donnera la liste. Vous l'avez préparée, Jérémy? Voilà, on vous donnera la liste. Voilà, il y a combien de cas dessus? Combien?
Une bonne centaine.
Une bonne centaine. Vous voyez? Eh bien, voilà, je vais prier pour ces gens. Mais croyez-moi, attendez-vous à Dieu si vous le faites de tout votre cœur, par la foi, en disant, voilà, je veux prier le Seigneur Jésus, je veux prier le Dieu Tout-Puissant, ne priez personne d'autre. Ça sert à rien. Il n'y a qu'un médiateur, on l'a lu tout à l'heure, entre Dieu et les hommes. Ne participez pas à ces abominations. C'est de la prostitution spirituelle. C'est grave la prostitution? Est-ce que vous pensez que c'est grave la prostitution? Est-ce que vous pensez que c'est grave quand un homme, marié ou pas, fréquente une prostituée? C'est bien ou c'est pas bien? Vous avez lu ce que dit la Bible? Eh bien, c'est pareil au niveau spirituel. C'est de la débauche, c'est une abomination. Le chemin, dit roi Salomon, ce chemin-là, c'est le chemin de la mort. Voilà, donc je vais vous préparer ce petit document. C'est mieux parce que voilà, il y a une trentaine de comportements occultes. Alors, c'est Fred qui m'avait envoyé un mail me parlant justement de la voix des morts. Hein. Oui, alors c'est toujours des démons qui imitent les morts. Les morts, on ne peut pas communiquer avec les morts. C'est tout le temps des démons qui imitent la voix des défunts. Mais quand on en arrive là, je pense que là, on a vraiment besoin de se mettre à genoux et de crier au Seigneur. Voilà, on va terminer par la prière. Donc je vous prépare. Qui le veut ce document? Parce que je ne vais pas me faire. Qui le veut? Pour qu'on ait une idée à peu près. Ouais, à peu près tout le monde. Ouais. Donc je vous le prépare. Voilà, ça va aller de choses simples. Comme Harry Potter, par exemple. Harry Potter, est-ce que c'est mauvais? Hein? Eh oui, c'est mauvais. Quand je vois qu'il y a des chrétiens qui regardent Harry Potter, là aussi, demandez pardon. Demandez-lui pardon. Si vous vous êtes fait piéger. Tout ce qui est satanique, ne vous en mêlez pas. Sinon, c'est comme le banc. Regarde la peinture. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les marquer sur un papier. Vous êtes d'accord, compris, que le Seigneur nous aide? Est-ce qu'on pourrait demander pardon au Seigneur? Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? On va demander pardon au Seigneur. Est-ce que ça peut plaire au Seigneur qu'ensemble, on demande pardon au Seigneur pour tous les chrétiens dans cette ville? qui se sont fait piéger. Est-ce que vous croyez que c'est bien qu'on le fasse? Ouais, on va le faire. On va le faire. On va demander pardon au Seigneur. Notre Père, notre Dieu, oui, comme nous l'avons chanté, c'est ta lumière qui nous éclaire, c'est ta parole. Et par rapport à tout ce qui est occulte, interdit, nous nous en éloignerons afin de ne pas connaître la perdition. Seigneur, oui, nous te bénissons pour ta parole qui nous montre que nous ne devons pas accepter, même pas écouter ces choses. Et nous tenons à te demander pardon, Seigneur, pour tout ce qui, dans les églises de Toulouse, aura été une abomination. Tu vois, même parmi nous, s'il y a quelqu'un qui a écouté ces choses, participé à ces choses, mis le doigt dans la grenage, pardonne-nous, Seigneur. Pardon, du fond du cœur. Nous te demandons pardon. Nous voulons aimer ta parole. Nous te prions pour tous les chrétiens de Toulouse, afin que tu les éclaires, que tu les libères, que tu les pardonnes. Tu vois ce jeûne et prière que nous allons faire pendant ces 3 jours? Seigneur, conduis-nous, Seigneur, afin que ta grâce coule sur l'Église, que nos foyers, nos maisons, nos enfants soient protégés, comme Néhémie qui avait reconstruit cette muraille pour protéger Jérusalem de l'ennemi. Nous voulons que nos maisons spirituelles soient protégées par ton sang précieux. Seigneur, nous tenons vraiment à obéir à ta parole. Demandons de nous conduire dans ces réunions que nous aurons les samedis ou les demain matin, tu vois, le culte, l'évangélisation. Conduis des hommes et des femmes afin qu'ils puissent être libérés. Et donne-nous à tous, afin que nous soyons de bons chrétiens, le discernement par rapport à tous ces gens enténébrés que nous côtoyons. Aide-nous, Seigneur, à être de bons chrétiens pour témoigner à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen.